9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadie.
Maurice Gourdeau-Montagne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate, vous avez été directeur de cabinet d'Alain Juppé à Matignon, conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée et son sherpa pour le G8. Vous avez été ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. Et enfin, secrétaire général du Quai d'Orsay. Vous avez donc passé 25 ans dans la proximité de 4 présidents de la République différents, ce qui rend vos mémoires qui viennent de paraître tout à fait passionnantes. Elle s'intitule « Les autres ne pensent pas comme nous ». C'est paru chez Bouquet. Un Allemand, dites-vous, ce n'est pas un Français qui parle allemand.
Effectivement, je crois qu'on a trop tendance à se projeter, à projeter sa vision du monde sur les autres. Et ce qui m'a inspiré aussi, c'est un jour, je voyais un professeur d'histoire à Cambridge, Julian Jackson, qui avait écrit un livre sur la résistance française. Et je lui avais dit, mais pourquoi ? Il m'avait dit, mais c'est très important parce que les Anglais doivent comprendre, eux qui n'ont jamais été envahis, ils doivent comprendre ce que c'est que de vivre sous la botte d'un pays étranger, ce qui est le cas de la plupart des pays du continent européen. Et donc, il faut essayer de se transposer, de rentrer dans la vision, l'expérience, les émotions des autres.
Alors, est-ce que c'est parce qu'un Allemand, ce n'est pas un Français qui parle allemand, que est-ce que ça pourrait expliquer qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est accusée par plusieurs dirigeants européens de faire encore partie du gouvernement allemand ?
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est allemande. Elle est de la CDU. Donc, la CDU n'est pas au pouvoir en Allemagne en ce moment, puisqu'on sait que c'est le SPD avec les Verts et les libéraux. Donc je crois que c'est un reproche qui est inexact. Mais elle a une vision du monde, une vision de l'Europe, une vision de la construction européenne, une vision de la défense européenne. Elle a été ministre de la Défense, qui est certainement influencée par son expérience et par la vision que les Allemands ont de notre continent.
Sa vision du gaz, par exemple, serait aussi influencée par l'idée que les Allemands se font du gaz.
Les Allemands ont une position sur le gaz, sur la manière de coiffer le prix du gaz, qui n'est pas la nôtre, et elle a une vision qui est un peu à mi-chemin. Donc je pense que le rôle d'Ursula von der Leyen est par définition de faire la synthèse des positions des autres et de proposer des solutions, mais il est indéniable qu'on est, quoi qu'on fasse, également influencé par son passé, sa vision, ses émotions, son expérience.
Le Conseil annuel des ministres de France et d'Allemagne, des ministres franco-allemands, comme on dit, a été annulé pour la première fois depuis qu'il a été institué en 2003. Vous connaissez très bien l'Allemagne. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est grave ?
C'est la décision d'annuler un Conseil des ministres franco-allemands qui est essentielle pour faire le point et pour donner les impulsions sur les coopérations, repérer ce qui ne va pas, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et si la décision a été prise, c'est parce que la situation est très sérieuse, non pas tant entre la France et l'Allemagne que sur l'ensemble des sujets à traiter, qui n'étaient sans doute pas assez mûrs pour pouvoir les entériner au cours d'un sommet. Donc, il était donc nécessaire sans doute de se concerter encore un peu plus avant d'arriver au sommet, parce que sinon c'est du temps perdu de parler sur des sujets qui ne sont pas assez élaborés. Alors on sait qu'il y a les sujets de défense, l'Allemagne s'engage plus qu'elle ne l'a jamais fait. On lui reproche, en ce qui nous concerne, de le faire trop avec les Américains. Mais il y a des projets de long terme qui nécessitent qu'on fasse avec ce qui est sur étagère, si je puis dire. C'est l'achat des fameux F-35 pour remplacer les Tornados qui portent l'arme nucléaire et qui sont stationnés en Allemagne. Il y a aussi un projet franco-allemand. Nous verrons quels sont les engagements allemands. Nous-mêmes, nous essayons de les porter le plus loin possible. Il y a le sujet énergétique. Vous avez vu que le président Macron a décidé avec les Portugais et les Espagnols de créer, depuis Barcelone, sous la Méditerranée, une voie verte, une voie d'énergie verte, qui va contre un projet que les Allemands essayaient d'avoir, parce qu'il faut qu'ils substituent au gaz russe d'autres sources d'approvisionnement, en gaz notamment, gaz naturel liquéfié, qui serait passé par les Pyrénées à travers la France, un pipeline. Nous n'étions pas d'accord. Les discussions sont toujours difficiles. Je crois qu'il y a entre la France et l'Allemagne un point essentiel, c'est que nous partons toujours de points de vue divergents, mais que la volonté politique de nous rapprocher existe. Et que pour cela, il y a des institutions franco-allemandes qui ont été éprouvées. La relation franco-allemande, je l'ai toujours appelée un combat de chaque jour. Et donc nous sommes dans ce combat de chaque jour et nous allons nous retrouver certainement assez vite pour pouvoir conclure sur des projets communs qui porteront l'Europe.
Vous parlez de relations, mais le couple franco-allemand, j'ai l'impression qu'il n'existe plus depuis François Mitterrand et Helmut Kohl. Au fond, depuis que l'Allemagne est devenue plus puissante politiquement que la France, sur la scène internationale notamment, après la réunification au fond.
Alors c'est vrai qu'il y a sans doute un déséquilibre aujourd'hui, une asymétrie entre la France et l'Allemagne depuis l'unification. Sans doute, il y a aussi le fait que nous avons reconnu, nous Français, qu'il y avait plus de population allemande et qu'elle est plus représentée au Parlement européen. Il y a plus de députés. On parle de couple, surtout en France. C'est un mot que les Allemands n'utilisent pas. C'est un mot un peu romantique, un peu sentimental. Moi, je parlais plutôt d'attelage. Un attelage, ça peut être deux animaux différents. L'essentiel, c'est que l'attelage tire dans la même direction. Et cette image d'attelage, en allemand, répond bien, je dirais, à la nécessité. L'équilibre de l'Europe repose sur le franco-allemand. Je rappelle qu'à nous deux, nous représentons aussi 47% des engagements de la zone euro. Donc, nous partons de points de vue divergents, nous nous rapprochons par une volonté politique, nous entraînons les autres. L'important aussi, c'est de regarder les autres Européens. Et nous voyons qu'aujourd'hui, l'Europe centrale et orientale a pris un leadership, notamment dans la question de la guerre en Ukraine. Il est donc important de rééquilibrer l'ensemble. Il y a une évolution des partenaires suédois, il y a eu les élections en Italie. Je crois que tout ça se repositionne, mais l'Europe existe bien, c'est difficile, et la France et l'Allemagne vont continuer à jouer leur rôle. De ce point de vue, je reste très confiant par-delà les difficultés, parce que nous avons besoin les uns des autres, y compris dans un déséquilibre, mais méfions-nous d'avoir trop de sentiments, ne pensons surtout qu'à nos intérêts.
Oui, c'est comme c'est bien dit, dans un langage diplomatique. Maurice Gourdeau-Montagne, on fait juste une pause, on se retrouve juste après, on va évidemment évoquer la guerre en Ukraine.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Maurice Gourdeau-Montagne qui publie « Les autres ne pensent pas comme nous ». Ce sont vos mémoires de diplomate et Dieu sait si votre carrière a été longue et riche. La Russie et l'OTAN aujourd'hui à couteau tiré depuis l'invasion de l'Ukraine. Comment en est-on arrivé là pour vous? Parce que vous rappelez dans votre livre que l'année 2006 a marqué le point culminant du rapprochement entre la Russie et le monde occidental. Et vous y étiez, hein, vous étiez au sommet de Saint-Pétersbourg, Chirac, vous avait envoyé en Russie, même proposé une protection croisée de l'Ukraine assurée par l'OTAN et la Russie à l'époque.
On en est arrivé là, puisque c'est la question, certainement parce que lors de la chute de l'Union soviétique, nous n'avons plus pensé au fait que ceux qui étaient en face de nous étaient d'anciens soviétiques. Et que donc leur frustration, leur ressentiment d'avoir vu s'effondrer tout un monde dans lequel ils avaient été élevés, pouvait demeurer. Il fallait donc créer de la confiance. La confiance, ça se crée par des coopérations économiques, nous avons essayé. L'ampleur des travaux à engager était immense. Dans l'ancienne URSS, les 15 républiques, l'URSS était disloquée en 15 républiques, vous aviez toute l'Europe centrale et orientale qui avait été occupée, c'était le pacte de Varsovie et le fameux Comecon de l'époque, il fallait reconstruire. On a laissé de côté la question sécuritaire. Et d'année en année, nous n'en avons pas parlé et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un vide de sécurité au centre de l'Europe. On a essayé de créer cette confiance. Je raconte dans mon livre le G8 de Saint-Pétersbourg où le président Chirac avait voulu faire que ce soit un grand succès pour les Russes. Nous avions parlé de non-prolifération, nous avions parlé de lutte contre les maladies infectieuses, d'éducation, d'énergie. Mais il y avait une question qui restait pendante, la question sécuritaire. Or, la nature a horreur du vide. C'est un peu comme des réactions chimiques, si vous voulez. À un certain moment, il faut pouvoir parler de sécurité. Les réclamations des uns et des autres ne sont pas les mêmes, mais elles sont légitimes. Elles répondent à une perception de la propre sécurité de chacun. Et donc, ce que nous n'avons pas fait, c'est, nous, Français et Allemands en particulier, et peut-être d'autres Européens, c'est d'aller dire aux Américains, puisque ce sont les seuls que les Russes regardent comme des égaux, de leur dire « mettons-nous autour d'une table, il y a un vrai problème ». Pendant ce temps-là, l'OTAN avançait. Il était normal que les républiques baltes, qui étaient des anciennes républiques soviétiques, qui avaient été effroyablement exploitées avec des déportations par l'occupation soviétique, puissent avoir entré dans une architecture de sécurité. Il était important aussi que les pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie de l'époque puissent le faire aussi. Mais l'Ukraine, ça devenait plus délicat. Et d'ailleurs, des grands stratèges américains, Kissinger, Brzezinski, avaient dit « Attention, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays à la frontière de la Russie. C'est un pays qui a appartenu à la Russie. Donc, il faut éviter ce qui serait perçu comme une provocation. » Kissinger avait prononcé ce mot lui-même. Nous n'avons pas fait attention. Et il s'est créé un abcès, finalement, au centre de l'Europe. Nous n'avons pas réglé le problème. Et Poutine lui-même a dit que ce serait une provocation en 2007. En 2008, l'OTAN, par négligence et par, je dirais, manque d'écoute de ce que les Russes pouvaient demander, que ce soit abracadabrant ou pas, il fallait en parler avec eux, eh bien, nous avons décidé que l'Ukraine et la Géorgie feraient partie de l'OTAN. Il y a eu ensuite la guerre en Géorgie, il y a eu ensuite l'Union
Quelques Europe. Mois plus tard. Hein,
Quelques mois plus tard, réaction russe aussitôt, parce qu'il y avait une épée de Damoclès, selon les Russes. Avec cette décision de mettre l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, même si la décision avait été suspendue à la demande des Français et des Allemands. Ensuite, vous avez eu l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Vous aviez ce qui déplaisait fortement aux Russes, le fait qu'en Ukraine, une partie du pays se rapprochait de certains idéaux démocratiques qui sont les nôtres. Donc la Russie voyait l'Ukraine s'éloigner. Raison de plus pour parler des problèmes de sécurité, ce que nous n'avons pas fait. 2014, vous connaissez l'histoire. Annexion de la Crimée, entrée dans le Donbass, ensuite les accords de Minsk non appliqués, et 2022, la guerre. Et nous en sommes là.
Mais vous dites ce que nous n'avons pas fait. Vous avez essayé, vous, Maurice Gourde-Montagne et Jacques Chirac, qui en était à l'origine. Ils vous avaient envoyé, je l'ai dit, en Russie, proposer une protection croisée de l'Ukraine, une sorte de neutralité, au fond, assurée par l'OTAN et par la Russie. Et quand vous allez aux États-Unis, vous en parlez à Condoleezza Rice, à l'époque la ministre des Affaires étrangères du président George W. Bush, et elle vous dit « Oh là là, la France a déjà essayé de bloquer la première vague d'adhésion à l'OTAN. » Là, on parle des anciens pays du pacte de Varsovie. « Vous n'allez pas nous empêcher de la deuxième vague. » Et là, elle sous-entend la Géorgie, l'Ukraine et les autres pays qu'on peut imaginer.
Effectivement, il s'est passé exactement ce que vous venez de rappeler. Lorsque j'ai entendu Condoleezza Rice dire « Les Français, ça commence à bien faire, vous bloquez effectivement l'expansion de l'OTAN, vous avez déjà essayé de le faire, vous allez continuer, et c'est inacceptable », j'ai compris que l'intention américaine était de faire cela. Ce qui était grave, c'est que pendant ce temps-là, tous les accords qui avaient existé du temps de la guerre froide étaient en train de devenir caduques. Les accords sur les forces conventionnelles...
Le contrôle des armements.
Ce qu'on appelle en général le contrôle des armements. Les forces nucléaires, les forces conventionnelles, ce qu'on appelait le ciel ouvert. Tout ce qui était contrôle, tout ce qui était mesure de confiance. Et donc, il n'y avait plus rien pour savoir ce que l'autre pouvait faire. Nous perdions le fil avec les Américains, avec les Russes, et les Américains perdaient ce fil et ne décidaient pas de le reprendre en main. Et donc, notre sécurité dans cette affaire dépendait largement de ce que les Américains décideraient ou non. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là.
Nous n'avons pas compris ce qui était dans la tête des Russes à l'époque, d'après ce que vous nous dites, Maurice Gourde-Montagne. Et peut-être que nous ne comprenons pas ce qu'il y a dans la tête des Chinois aujourd'hui. Vous avez été ambassadeur de France en Chine, vous parlez un peu chinois, vous connaissez très très bien ce pays. Et vous expliquez dans ce livre pourquoi Pékin est si sensible sur la question de Taïwan. Vous dites qu'il faut s'imaginer une situation où le régime de Vichy aurait créé à la libération un État parallèle à la France libérée sur une île voisine, la Corse par exemple, que cet État aurait survécu à la mort du maréchal Pétain, existerait toujours et revendiquerait d'être la France. C'est ça pour vous la situation taïwanaise?
Alors j'essaie de faire comprendre ce que c'est cette situation taïwanaise, parce que c'est très difficile pour nous de nous dire mais voilà une île qui se développe comme un pays démocratique, pourquoi ne serait-elle pas indépendante? Alors j'ai pris cette comparaison qui est un peu osée, parce que le maréchal Chiang Kai-shek s'était battu contre les Japonais. Et en l'occurrence, Pétain ne s'est pas battu contre les Allemands, du moins pendant la Deuxième Guerre mondiale. En l'occurrence, ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il y a pour Pékin un problème de concurrence de légitimité. Pour les Chinois de Pékin, la seule légitimité chinoise qui peut exister, c'est à Pékin qu'elle se trouve. Quand on est à Taïwan, on estime qu'on est aussi toute la Chine, et donc on a une revendication de légitimité pour l'ensemble de la Chine. Alors ça crée une situation très difficile. Je rappelle néanmoins qu'en 1972, enfin le général de Gaulle en 64, puis ensuite les Américains en 72 jusqu'en 79, et toute la communauté internationale qui reconnaissait Taïwan aux Nations Unies a décidé d'aller reconnaître Pékin comme seule entité légitime de la Chine. Donc il y a dans cette situation quelque chose de bien particulier. Taïwan n'est plus reconnu internationalement que par une quinzaine de pays. Le reste du monde reconnaît Pékin. La légitimité est à Pékin. Est-ce à dire qu'il faut laisser Pékin mettre la main violemment sur Taïwan pour l'unification de la Chine? C'est une autre affaire. La vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas revenir au statu quo qui existait depuis les années 90, selon un accord qui s'appelle l'accord des deux rives? Il se trouve que le parti au pouvoir à Taïwan a changé, qu'il y a maintenant un parti qui se dit indépendantiste. Il n'a pas proclamé son indépendance, l'indépendance de Taïwan. Ce serait évidemment le chiffon rouge qui déclencherait la guerre. Je crois que les Chinois, entre eux, pourront peut-être trouver des voies pour s'entendre. Nous en sommes encore loin. Je pense que petit à petit, et on l'a vu déjà après la visite de Mme Pelosi, Pékin va essayer d'étouffer Taïwan, d'éroder la souveraineté de Taïwan petit à petit. Est-ce qu'ils ont déjà franchi la ligne médiane, comme on l'appelle, dans le détroit de Taïwan, qui fait 180 km? Ils ont franchi. Ils ont violé l'espace aérien de Taïwan. Là, est-ce qu'ils iront jusqu'à la ligne des 12 000 marins? Là, Taïwan a dit qu'ils interviendraient, qu'ils saisiraient les bateaux qui vont le faire. On est toujours à la merci d'un accident, parce qu'il y a de plus en plus de garde-côtes, on les appelle comme ça, dans le détroit. Donc la situation devient inflammable, elle est dangereuse, mais politiquement, il faut avoir en tête que l'arrière-plan de tout cela, c'est une concurrence de légitimité entre Pékin d'un côté et Taïwan de l'autre pour dire « je suis la seule Chine ».
Merci Maurice Gourdeau-Montagne. Je recommande votre livre, hein, « Les autres ne pensent pas comme nous ». Ça vient de paraître chez Bouquin et c'est très très éclairant sur la situation internationale. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Sylvie Maton. On va parler de la première femme qui, il y a 50 ans, a détourné un avion toute seule. Et ça s'est très mal fini.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.